Encore une fois, notre Dieu, nous voulons te bénir de tout notre cœur, te rendre grâce pour la température que tu nous donnes ce matin. Et nous voulons nous laisser baigner dans ta parole, car nous savons que ta parole nous lave, nous purifie. Ton sang a expié nos fautes, une fois pour toutes. Mais dans la marche, c'est ta parole, l'action de ta parole, qui opère comme un lavage quotidien, afin que nous vivions dans ta communion et que aucun voile ne se place entre nous et ta face adorable, pour que nous puissions vraiment refléter dans la pratique quelque chose de ton image. Ô Jésus, nous te remercions de nous avoir acceptés à ton école, pour que nous puissions tout apprendre de toi, et surtout, comme le disait ton apôtre, apprendre le Christ. Nous ne voulons pas l'apprendre de n'importe quelle manière, nous voulons t'apprendre en te regardant, en te voyant agir. Illumine les yeux de notre cœur, pour que nous puissions discerner les richesses de ta parole. Rejoins nos consciences. Touche nos cœurs, et que nous ne puissions pas quitter ce camp, ayant eu seulement la conscience touchée, comme les hommes qui voulaient lapider la femme adultère, mais qui n'eurent pas leur cœur touché. Car si leur cœur avait été touché, au lieu de s'en aller chez eux avec leurs péchés, ils se seraient agenouillés à côté de la femme adultère pour recevoir avec elle le pardon de leurs propres fautes. Notre Dieu, agis en puissance et en grâce, et que cette journée de juillet soit pour nous une journée qui marque définitivement dans notre existence en ton amour. Amen. Bien oui, mes amis, nous sommes au matin du 26 juillet 1988, toujours à la poursuite de notre thème « Connais-toi toi-même », à la lumière de ce livre de Job qui, je veux l'espérer, vous devient de jour en jour plus précieux. Et nous commençons encore une fois le réciter notre verset clé, ou nos versets clés, de Romains, chapitre 11, versets 33 à 35. Ô profondeur, la sagesse et de la connaissance de Dieu, jugement. Amen. Mes bien-aimés, et je veux croire que vous êtes conscients que nous vous aimons et que quand nous appelons ou nous vous appelons bien-aimés, ça veut dire que nous vous aimons bien. Pas pour que nous nous fassions aimer, nous. Car si même en vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous puissiez progresser dans la vie spirituelle et sur cette voie de l'éternité où le Seigneur vous appelle à marcher. Nous avons une sainte ambition pour chacune de vos âmes et nous n'oublions personne. Nous vous portons nuit et jour dans nos cœurs au trône de la grâce. Je ne vous dis pas que j'assiège le trône de la grâce. C'est une folie. Le trône de la grâce n'est pas à assiéger. On assiège une ville fermée. Le trône de la grâce est une ville ouverte. Et nous avons une pleine liberté pour y entrer. Cette expression qu'on entend si souvent dans les réunions de prière, nous assiégeons le trône de la grâce, elle devient ridicule parce qu'elle montre bien que nous ne sommes pas imprégnés des Écritures. Le trône de la grâce est ouvert. Venez entrer librement dans le sanctuaire. Le trône de la grâce vous est ouvert et vous pouvez recevoir la grâce dont vos cœurs ont besoin. Alors, comme nous l'avons vu hier, avec le troisième et dernier discours de Bildad et la réponse de Job, la troisième série de discours entre Job et ses amis prend fin. Et vous aurez remarqué que dans ce troisième cycle, Sophar ne prend pas la parole. Et par sa brièveté, l'intervention de Bildad montre que les trois amis n'avaient plus rien à dire. Bildad, comme nous le soulignons hier, ne sort que des lieux communs, se répète ou répète ce que les autres ont déjà dit. Il n'y a plus vraiment un intérêt à écouter Bildad. Il est vraiment pauvre. Chacun a parlé de Dieu, ses trois amis, comme Job aussi, mais tous ont parlé sans connaître la présence de Dieu, sans se tenir vraiment dans son intimité, qu'il s'agisse des amis de Job ou qu'il s'agisse de Job lui-même. Ils ont parlé de Dieu. Ils ont dit, je le souligne, des choses vraies, mais pas la vérité. Et leurs arguments pouvaient être valables, mais pas pour le cas de Job. Ce que Job pensait pour trouver une solution à son épreuve n'était pas la vérité. Ce que les amis de Job essayaient de lui expliquer pour lui donner une raison de passer ainsi par tant de tourments n'était pas la vérité non plus. Ça pouvait être vrai pour d'autres, mais pas pour Job. Et c'est ainsi que les amis, en accusant finalement ouvertement Job, ne faisaient que l'amener à se justifier davantage et à l'encourager dans sa propre justice. D'où le Seigneur voulait justement le tirer. Car ce que Dieu voyait en Job, ce qu'il voyait dans son cœur, c'était quelque chose qu'il voulait corriger. Voyez-vous, Dieu, dès qu'il voit quelque chose de juste en une âme, il est réjoui et il en parle. Et c'est lui qui a provoqué Satan, en quelque sorte. Et regardez, Jésus, dans sa vie, c'est vraiment l'incarnation de Dieu. Dieu était en Christ. Et si vous voulez savoir comment le Père réagit quand quelqu'un a une œuvre juste et bonne, bien voyez Jésus, ce serait même un païen, eh bien Jésus est réjoui. Ce sont des ignorants qui ont compris quelque chose. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et tu les as révélées aux petits-enfants. C'est un docteur de la loi qui dit une chose valable. Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est toujours positif. c'est toujours encourageant. Tandis que nous, dans nos discussions, eh bien, nous avons beaucoup de peine à voir d'abord ce qui est juste, ce qui est bien, à souligner ce qui est bien. Nous voyons tout de suite l'erreur. Et nous insistons sur l'erreur. Et nous creusons un fossé. Et la discussion ne peut plus continuer. Tandis que, comme le disait ce père lazariste de Paris, ami de Jean Guiton, eh bien, il faut toujours chercher à trouver le minimum d'accord. Et quand on a discerné le minimum d'accord, alors on construit en partant de ce minimum et on peut aller plus loin. La conversation peut se prolonger et quelque chose de positif peut en sortir. Mais si immédiatement vous pointez la chose qui n'est pas très juste, automatiquement vous creusez un fossé, chacun veut avoir raison, et au lieu d'amener l'âme plus près du Seigneur, on l'en éloigne. On l'éloigne de nous aussi, mais on l'éloigne souvent de Dieu que nous avons prétendu représenter, ou que nous sommes prétendument représentés. Eh bien, comprenons les leçons que le livre de Job doit nous donner. Les amis de Job, en accusant Job, non seulement le confirmaient dans ses propres pensées, mais ses amis faisaient l'œuvre de Satan. Et ça pouvait n'être que négatif. Ce que Job, lui, contemplait sur sa peau, parce qu'il s'est souvent regardé et il parle de ce qu'il voit, ce qu'il voyait sur son corps, c'est justement ce que Dieu, aux yeux si purs, voyait dans son cœur. Job ne voyait pas cela dans son cœur. Et c'est là que j'ai cité le texte d'Ésaïe, chapitre 1er, verset 5, « Tout est blessure et meurtrissure et plaie vive, elles n'ont pas été pansées ni bandées avec de l'huile. » Et c'est bien ce que le Seigneur nous a rappelé ce matin, en nous soulignant ce qui était dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur. Et nous avons vu cette liste, ces 13 éléments qui peuvent être trouvés dans notre cœur. Et je dirais 14, puisqu'il est dit « et toutes les choses semblables ». Le cœur est trompeur. Oui, il est incurable. Et ce n'est pas une manifestation d'intérêt religieux, une manifestation extérieure, et qui peut illusionner le Seigneur. Lui savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Et il sait aussi ce qui est dans nos cœurs, à nous qui sommes ici, et ce que sont nos pensées. Avant que nous prononcions une parole, il connaît ce que nous allons dire. Job, dans sa droiture, et son intégrité, au fond, il ne se connaissait pas comme le Seigneur le connaissait. Certes, Job était un saint homme, mais il ne pouvait être justifié que par la grâce de Dieu. Or, il se croyait juste à cause de ses œuvres et du témoignage de bonne conduite qu'on lui avait rendu au cours de sa vie heureuse. Il ne s'était pas encore rendu compte de ce qu'était la chair en lui.
tout ce qui était bien en Job venait de la grâce de Dieu et non pas de son cœur charnel. Et c'est cela que nous devons aussi apprendre. La loi n'avait pas encore été promulguée, comme nous l'avons rappelé, mais la nature elle-même parlait du Créateur et rendait les hommes inexcusables de vivre d'une manière contraire aux lois naturelles. Puisque la loi n'avait pas encore été promulguée, eh bien, le péché n'était pas mis en compte, puisque le péché, dans sa définition, c'est la transgression de la loi, selon Jean. Il n'y avait pas de loi, alors le péché n'était pas mis en compte, mais le péché existait pourtant. Et Dieu supportait la chose. Il supportait, qu'il est dit dans les Romains, les péchés précédents en vue de quoi ? Parce que son Fils, l'agneau de Dieu, viendrait et rachèterait l'humanité de tous ses péchés. Mais le péché existait même au temps où il n'y avait pas de loi, puisque la mort régnait depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est le chapitre 5 des Romains qui vous enseigne ces vérités profondes. Car la mort, qu'est-ce que c'est ? Le salaire du péché. Dieu ne voulait pas la mort. Et Dieu ne veut pas la mort. Il ne veut pas même la mort du pécheur, il veut sa conversion et sa vie. Donc, la grâce et la vérité devaient venir quand ? Par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité viendraient par Jésus-Christ. Cette grâce, donc, Job ne la connaissait pas encore. Alors, ce que Job devait apprendre, c'est que toutes nos justices sont aux yeux de Dieu comme un vêtement souillé. J'ai déjà souligné ce texte d'Ésaïe 26. Toutes nos justices, Ésaïe 64, pardon, sont comme un vêtement souillé. Et alors hier, après l'hymne à la sagesse que nous avons lu au chapitre 28 et qui forme certainement un des sommets de ce livre, qui est si riche en passages qui sont vraiment sublimes, et nous devons bénir le Seigneur pour les horizons que ce livre nous a ouverts. Est-ce que nous l'avons fait ? Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui, personnellement, a été touché par ce qui est dit dans ce livre, s'est reconnu et a vu un horizon nouveau s'ouvrir devant lui ou devant elle et a pu bénir le Seigneur ? Je te bénis de ce que tu m'as enseigné par ta parole. Parce que c'est ça qui compte. Est-ce que vous avez pu vous arrêter et rendre grâce ? Tu m'as fait du bien, tu m'as touché. C'était exactement pour moi. C'était ce que j'avais besoin. J'étais venu peut-être à ce camp avec de toute autre idée. Je me faisais une autre idée de ce que pouvait être ce camp. Puis voilà que ça n'a pas correspondu à mon attente. Mais je commence à voir que tu étais quand même là. Et que tu voulais me rencontrer, et dans ces jours qui vont bientôt se terminer, tu m'as rencontré, tu m'as rejoint. Ça m'a peut-être fait mal, mais je te bénis, parce que au fond, je veux que si j'ai un abcès quelconque, eh bien, il soit débridé, et que je puisse guérir. Parce que sans ça, on s'empoisonne, et on se demande pourquoi. Dans la vie quotidienne, quand vous serez hors du camp, il y a des choses qui ne vont pas. Eh bien, ici, au camp, vous aviez l'occasion d'être en relation personnelle avec le Seigneur, loin du bruit du monde, et en contact simplement avec la parole. Alors, nous bénissons Dieu pour ce chapitre 28 de Job qui nous conduit vraiment sur un sommet. Et nous voyons alors Job poursuivre son discours, qui devient en quelque sorte un long monologue. Ses trois amis se sont tus et ne lui diront plus rien, ne lui répondront pas. Et lui terminera ce grand discours au chapitre 31e qui nous occupera ce soir. Donc le dernier discours de Job, là, comme réponse d'abord à Bildad, puis à ses trois amis, c'est plutôt un monologue, mais qui va nous donner bien des choses remarquables à considérer. Et alors, avant d'aborder ce chapitre 29, qui est, souvenez-vous bien de cela, une des clés du livre. Si vous voulez vraiment comprendre le livre de Job, il faut connaître le chapitre 29. C'est pourquoi on ne peut pas vous donner la clé du livre avant d'avoir lu et d'être arrivé là où se trouve la clé. Parce que sans ça, c'est une étude artificielle. Quand, dès le premier cours, on vous donne la clé, on vous donne le plan du livre, c'est tout artificiel. Il faut d'abord lire. On rassemble ensemble les matériaux, puis ensuite on construit. Parce que quand vous n'avez qu'un plan, vous n'avez pas encore la maison. Mais on a voulu construire ensemble, comme chaque camp Mahanaïm, jusqu'à présent, s'est construit de jour en jour. C'est pas moi qui l'ai construit ou ma femme, mais ensemble, nous sommes laissés conduire par Dieu, et chaque année, eh bien, le Seigneur a construit le camp, car c'est lui qui est au centre du camp, puisque c'est le camp de Dieu. Nous pouvons venir de milieux différents, avoir d'autres pensées, mais nous respectons les uns les autres. Vous pourrez repartir avec d'autres pensées, cela c'est votre responsabilité, mais souvenez-vous du texte que je vous ai cité ce matin, ce n'est pas moi qui vous jugerai, mais c'est la parole qui vous jugera au dernier jour. Et ma responsabilité à moi, c'est de vous mettre en contact avec la parole, c'est de ne pas me prêcher moi-même ou de vous apporter mes propres sentiments, mais de me laisser moi-même critiquer par la parole pour que, laissant la parole travailler dans mon cœur comme une épée à deux tranchants qui fait la division entre ce qui est des émotions, ce qui est du domaine de l'âme et de l'esprit, et laissant aussi la parole atteindre jusqu'aux jointures et aux moelles, eh bien, Dieu puisse avoir une action dans notre vie. Mais une action en profondeur, non pas quelque chose de léger, mais quelque chose qui va au fond et qui change notre existence. Alors, avant d'aborder ce chapitre, qui disions-nous est une clé du livre, rappelons les trois parties du chapitre 28, l'hymne à la sagesse, si on peut l'appeler ainsi. Parce que je voudrais que vous, personnellement, je ne reviendrai pas là-dessus moi-même, mais que vous puissiez le relire, vous arrêter, méditer. Versets 1 à 11, vous avez l'homme qui fait des merveilles au point de vue technique. Vous savez, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Si l'on savait ce qui existait déjà dans chez les anciens, ils ont fait des œuvres qui nous émerveillent. L'année dernière, j'étais aux pyramides d'Égypte, et quand je voyais ce travail, bien sûr, on dit, ce sont les esclaves juifs qui ont fait cela. Mais c'est quand même extraordinaire. de voir comment ces blocs ont été mis les uns sur les autres. Aujourd'hui, on est capable de faire de grandes choses, de belles choses, mais ces choses antiques, quelle merveille! L'homme est la race de Dieu. Quand il se laisse saisir, il peut faire des choses remarquables, des choses merveilleuses. Donc, méditez un peu sur ce que l'homme est capable de faire. Il est l'œuvre du Créateur. Il a un exemple. Maintenant, la deuxième partie de ce chapitre, versets 12 à 19, nous voyons que l'homme, ce qu'il ne peut pas acquérir à prix d'argent, par tous les trésors que l'homme possède, c'est quoi? C'est la sagesse. Il est capable de faire de grandes choses au point de vue technique, artistique, culturel, mais la sagesse, il ne peut pas l'acquérir par ses trésors. Et la troisième partie, versets 20 à 28, nous voyons que la sagesse appartient à Dieu seul. Alors, recherchez le Seigneur. Et souvenez-vous de la définition du dernier verset de ce chapitre qui nous montre ce qu'est la sagesse. La crainte de l'Éternel fait la sagesse. Se retirer du mal, c'est cela l'intelligence. J'aime beaucoup ces définitions-là. Elles sont plus claires, plus précises, plus justes que celles du petit Robert. Mais c'est toujours intéressant de bien saisir le sens des mots. Et je ne veux pas critiquer le petit Robert. Nous l'employons, comme nous employons littré encore, bien sûr, mais quand même on trouve dans l'Écriture de ces définitions qui nous enchantent, qui nous éblouissent, qui nous réjouissent. Oui, se retirer du mal, c'est cela l'intelligence. Et quand il est dit qu'il n'y a personne qui ait de l'intelligence, c'est à cause de ça, on court vers le mal, c'est pas intelligent. Se retirer du mal, c'est cela l'intelligence. Gardez cela dans vos cœurs. Et puis, la sagesse, c'est de chercher à plaire au Seigneur. C'est ça la vraie crainte. C'est pas la peur. Mais c'est vraiment ce désir d'amour, de l'amoureux du Seigneur qui ne voudrait pas déplaire à son bien-aimé, parce que son bien-aimé, c'est quelqu'un, c'est le Seigneur. Ton bien-aimé, disions-nous dans cette clairière il y a 2 ans, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé? Voilà ce que le monde nous demande. Mais vous, les chrétiens, est-ce que votre vie est comblée? Ou bien est-ce que vous êtes des desséchés? Parce qu'au moins, le monde, ben, il y va dans le monde. Ben je vous le dis, si vous voulez aller dans le monde, allez-y. Si c'est Baal que vous voulez suivre, courez après lui. Mais ne clochez pas des deux côtés. Votre marche, elle est boiteuse. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, courez après lui. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. On croit que c'est possible. Non, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous mettez pas en souci. Et j'ai compris pour moi-même que quand je me mettais en souci, je croyais pouvoir servir deux maîtres. C'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi, ne vous mettez pas en souci pour votre vie. C'est pourquoi je vous dis. Oui, ne vous mettez pas en souci. Parce que sans ça, vous servez deux maîtres. Je n'ai qu'un seul maître qui pourvoit à tout, qui marche devant moi. Je le sais même si je ne le vois pas. et qui est mon arrière-garde, j'en suis assuré, même si je ne l'entends pas, je sais qu'il me protège sur ma droite, même si je ne discerne pas, et qu'il est aussi sur ma gauche, de sorte que je me trouve enveloppé par lui dans son amour comme dans une sphère. Le chrétien, oui, il est comme dans une sphère. Au-dessus de lui, eh bien, il y a l'ombre de la main du Tout-Puissant. Au-dessus de toi, il y a l'ombre de la main du Tout-Puissant. Puis au-dessous de vous, il y a les bras éternels. Deutéronome, chapitre 33. C'est quelque chose de merveilleux quand ça devient vrai pour nous. Et vous êtes environné d'une haie de protection, de sorte que si Satan est derrière la haie et arrive à vous décocher un de ces dards enflammés qui traverse la haie, parce qu'une flèche peut traverser une haie, eh bien, vous avez un deuxième cercle, un à l'intérieur de la haie, que nous trouvons dans le psaume 5, c'est le bouclier de la faveur de Dieu qui peut éteindre les dards enflammés du malin. Une muraille qui est comme un bouclier, de sorte que la flèche qui a traversé la haie, elle s'arrête contre cette enceinte, le bouclier. Et puis, dans l'intérieur de ce second cercle, il y en a un troisième. Il est dit que ceux qui craignent l'Éternel, la bonté du Seigneur les environnera. Nous sommes environnés par la bonté du Seigneur, ou sa miséricorde qui demeure à toujours. Vous voyez la hauteur de sa miséricorde. Donc, vous êtes encore à l'intérieur de ce troisième cercle. Et à l'intérieur du troisième cercle, il y a quelque chose de plus merveilleux encore. Il y a quelqu'un, c'est le Seigneur lui-même, qui nous dit qu'il campe autour de ceux qui le craignent et qu'il les délivre. De sorte que ma position est dans les bras du Seigneur. Il campe autour de ceux qui le craignent. Vous avez une relation immédiate avec le Seigneur. Ma place est sur son cœur. Elle est dans ses bras. Et je connais ainsi la divine étreinte qui me remplit de bonheur, d'un bonheur qui n'est pas fugitif et qui ne nous épuise pas, mais qui fait notre renouvellement quotidien. Voilà. Alors maintenant, nous passons à ce chapitre 29. Et si vous avez des questions, vous les notez. Qu'est-ce que nous trouvons au chapitre 29, dans ce monologue de Job? Il nous parle d'abord de son ancienne prospérité. C'est l'évocation de son bonheur passé. Job exposa de nouveau sa thèse et dit: oh, que ne puis-je être comme au moi du passé? C'est ce qui nous fait penser, c'est la deuxième fois que nous trouvons ces moi. De sorte que l'épreuve de Job, on peut la compter en moi. Je ne dis pas en année, comme certains le pensent, mais je ne pense pas que les amis de Job soient restés des années auprès de lui. De sorte que c'est en tout cas des mois qu'a duré sa maladie. Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Comme si parce qu'on est dans l'épreuve, il ne nous gardait plus. Quand il faisait briller sa lampe sur ma tête. Donc, qu'il avait vraiment l'impression d'être dans la lumière. Dieu est lumière, il n'y a en lui aucune ténèbre. Alors il était conscient que la lumière divine baignait sa maison et il vivait dans la proximité de ce Dieu de lumière. Quand il faisait briller sa lampe sur
sur ma tête, et qu'à sa lumière, je m'avançais dans les ténèbres. Oui, il y avait déjà des ténèbres, mais il pouvait avancer à la lumière du Seigneur au travers des ténèbres de ce monde. Si je pouvais être tel que j'étais au jour de ma pleine maturité, quand on se dit, bien voilà, maintenant je suis arrivé au sommet, je peux donner le maximum. Quand Dieu veillait en ami sur ma tente, est-ce qu'il veillerait maintenant en ennemi? Non, mais n'est-ce pas? Apparemment, il ne voit plus, il ne sent plus ces choses-là. Alors, il se souvient de ce temps béni qu'il a eu. Comme nous aussi, nous avons eu des heures de grâce, des moments de bénédiction dans nos vies, même si nous avons eu beaucoup d'épreuves. Et quand nous nous souvenons de certains moments, nous en avons la nostalgie. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi, puis tout d'un coup on se dit, il n'est plus là. Mais non, mais c'est nous qui ne sommes pas là. Pourquoi suis-je venu et il n'y a eu personne? Pourquoi ai-je appelé et il n'y a eu personne qui répondit? On a voulu se débrouiller tout seul. Puis le Seigneur était là, on n'a pas su attendre le dernier quart d'heure. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes jeunes fils m'entourait. Voyez cette évocation. Job pense à ses jeunes fils. Ils ne sont plus. Vous avez des enfants, puis ils ne sont plus. Mais ils vivent encore. Ils vivent auprès de Dieu. Quand mes pieds baignaient dans la crème. C'était quelle sorte de crème? Pour les pieds malades? Alors, vous avez déjà eu les pieds baignés dans la crème? C'est une image poétique pour montrer qu'il était dans l'abondance. Il ne baignait pas ses pieds dans l'eau, lui. Il les baignait dans la crème. C'est doux. Non, mais ça, c'est une image, n'est-ce pas, qui nous montre sa prospérité. Et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Un rocher qui répand de l'huile. Et voilà, oui, c'est un bien-être miraculeux. Le miel du rocher. Et l'huile du rocher. Comme il en est question ailleurs. Quand je sortais pour aller à la porte de la ville, ce qui vous montre que Job faisait partie de quoi? Du gouvernement, du conseil de la ville. Hein, à la porte, ce qui est exprimé ici, la porte de la ville, c'était où siégeait le conseil, les grands de la ville. Alors, quand je sortais pour aller à la porte de la ville, et que je me faisais préparer un siège sur la place, on le soignait aux petits oignons. Il était toujours attendu. Il avait son siège. Il n'avait pas besoin de courir pour avoir un siège. Son siège lui était attribué et il avait sa place. Les jeunes gens me voyaient et se retiraient. On avait des égards. Ces gens. Les vieillards même, figurez-vous cela, les jeunes gens se retiraient avec vraiment une grande politesse, mais les vieillards aussi, qui savaient reconnaître les qualités de Job et son autorité, se levaient et se tenaient debout. Il n'est pas dit qu'ils se levaient debout, comme on l'entend si souvent. Dans ce Québec, ça me fait un peu rire. Quand on dit « levez-vous debout », moi j'ai envie de rester assis. Non, mais pourquoi pas se laisser un peu corriger là-dessus, hein? Si vous vous levez, vous vous levez. N'est-ce pas?
Alors, mais c'est des traductions, stand-up. Hein? Alors, ben laissez l'anglais avec les anglais, mais parlez français. Le vieillard se levait et se tenait debout. Les princes arrêtaient leurs propos et mettaient la main sur leur bouche. Vous voyez, sa seule présence amenait quoi? Le silence. Parce qu'on le respectait. La voix des chefs se taisait. C'est-à-dire, si quelqu'un était en train de discourir, et que c'était pourtant un chef, eh bien, si la voix des chefs se taisait, quand Job arrivait, ça veut dire que Job était plus que le chef, ces chefs-là. Il était supérieur, il était leur supérieur, le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Vous voyez, leur langue s'attachait à leur palais. Rendez-vous compte. Tout à coup, le chewing-gum collait. Car l'oreille qui m'entendait me disait heureux. Vous voyez comme il se délecte de son intonation, de sa voix, et il pense qu'il suffit qu'il parle pour que les gens soient heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Vous voyez. Il était conscient, on me regarde, mon image de marque. L'œil qui me voyait. Et plus tard, quand il a été dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Mon œil t'a vu. Il est plus préoccupé de l'œil des gens. Mais maintenant, lui, il l'a vu. Et je me répands dans la poussière et dans la cendre. Verset 12. En effet, je délivrai le malheureux qui implorait de l'aide. Et l'orphelin que personne ne secourait. Alors, vous voyez maintenant, au fond, il donne une réponse, il montre ce qu'il pense concernant toutes les accusations qu'on a portées contre lui. Parce qu'on l'a accusé de ne pas être ouvert aux malheureux, de ne rien faire pour ceux qui imploraient de l'aide. Je délivrerai le malheureux qui implorait de l'aide. Et l'orphelin que personne ne secourait. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve, alors qu'on l'a accusé de ne pas s'occuper des veuves. Je me revêtais de la justice. Elle me revêtait. Vous voyez, il était conscient que tout ce qu'il faisait était juste. Il se revêtait de la justice. Elle me revêtait. J'avais mon droit pour manteau et pour turban. J'étais des yeux pour l'aveugle. Des pieds pour le boiteux. J'étais un père pour les pauvres. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais la proie de ses dents. Alors, je disais, n'est-ce pas? Vous voyez tout le temps, je. Il est rempli de lui-même. C'est vrai ou c'est faux? N'est-ce pas? C'est là que tout à coup on apprend à connaître quelqu'un. Au fond, c'est vrai qu'il est un saint homme, mais il se complaît dans sa sainteté, dans tout ce qu'il est. Et alors, il avait la pensée, une pensée au sujet de sa fin. Comment est-ce qu'il finirait? Quel était son espoir? Alors je disais, j'expirerai dans mon nid. Pas à l'hôpital, mais dans mon nid bien douillet.
j'aurai des jours nombreux comme le sable. Donc j'aurai une longue vie et une heureuse vieillesse, comme la plupart des patriarches avaient. Abraham mourut rassasié de jours. Après une heureuse vieillesse, vous trouvez toujours ces expressions dans la Genèse. Mes racines se tendront vers l'eau, la rosée passera la nuit sur mes rameaux, ma gloire se renouvellera en moi. Vous voyez comme il est centré sur lui. Ma gloire se renouvellera en moi. Au fond, je serai toujours plus glorieux. Et mon arc retrouvera force dans ma main. Parce que quand vous tirez de l'arc, il y a de la force. Mais ce n'est pas ses mains qui trouveront de la force, c'est son arc. Donc il dépasse tout. Verset 21. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence pour entendre mes conseils. Après mes paroles, on ne répliquait pas. Et mes propos se répandaient sur eux tous. Ils m'attendaient comme on attend la pluie. Il est gonflé quand même. On m'attendait comme on attend la pluie. Vous voyez, la sécheresse est partout, on demande la pluie. Bien Job, quand il arrivait, c'était la pluie de bénédiction. Il est quand même conscient de sa valeur. Comme pour une ondée de printemps. Ouvrez la bouche. Ça va descendre. Comme une ondée de printemps. Je leur souriais. Un certain sourire. Pas celui de François. Excuse-moi François. Oh, je pensais à la Sagan. Hein. Je leur souriais. Mais ils n'y croyaient pas. C'est possible qu'il s'arrête pour me sourire à moi. C'est ça. Comme il est bon, le Père Job. Il ne pouvait faire disparaître la lumière de mon visage. Donc, toujours rayonnant. Ça n'a pas toujours été le cas pour le Seigneur. Hein. Vous le voyez, oui. Allant de lieu en lieu, faisant du bien, souriant pour les enfants, pour les malades. Mais quand il s'est trouvé devant des gens religieux, qui étaient des hypocrites, il les a traités de ce qu'ils étaient. Hypocrites. Fous. Menteurs. Sépulcres blanchis. Serpents. Race de vipère. Après cela, on est crucifié. Quelques jours après, il était sur la croix. Mais il leur avait dit la vérité. Il ne pouvait faire disparaître la lumière de mon visage. Alors je vois Jésus. Son visage était défait et abattu plus que celui d'aucun homme. Il était comme défiguré par la souffrance. Je choisissais d'aller avec eux et je m'asseyais à leur tête. C'était lui qui choisissait d'aller avec eux. Hein. C'était pas eux. Ils n'auraient pas osé. Mais lui choisissait d'aller avec eux, mais il s'asseyait à leur tête. Je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme celui qui console les affligés. Est-ce que vous commencez un peu à comprendre? Est-ce que ce chapitre vous donne une certaine lumière sur le pourquoi
de ces épreuves permises par Dieu parce qu'il veut le libérer de lui-même et lui donner le double. Parce que quand on est libre de soi-même, on a vraiment le double. On est affranchi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Eh bien, nous arrêtons un instant et puis nous lirons simplement le chapitre 30. Ça ne sera pas long. Vous pouvez changer de position peut-être. Et l'avantage que nous avons de lire progressivement, mais en suivant et de nous en imprégner. Maintenant, on peut le comprendre parce que si on ouvre sa Bible comme ça, puis on ouvre. Et maintenant, ça ne veut rien dire. N'est-ce pas? Mais si vous avez lu le chapitre précédent, vous le liez, vous liez ces choses. Alors, il nous a parlé de son bonheur passé. La protection que Dieu lui accordait, c'est les 6 premiers versets. Puis il insiste, versets 7 à 11, sur l'estime dont il était entouré. Puis, versets 12 à 17, il nous montre son rôle bienfaisant dans la société. Puis, quatrième partie, versets 18 à 20, l'espoir qu'il avait d'avoir une fin heureuse. Puis, versets 21 à 25, où il revient sur cette estime qu'on lui accordait. Et au chapitre 30, alors, vous avez la description de son malheur présent. Quel contraste. Des versets 1 à 8, nous allons voir la condition misérable des vagabonds qui se moquent de lui. Et maintenant, de plus jeunes que moi, alors qu'avant, c'était des vieillards qui se levaient. Et maintenant, de plus jeunes que moi, sourient à mon sujet. C'est maintenant eux qui se rient de lui. Ceux dont je méprisais trop les pères pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. Misère. Hein? Il savait aussi avoir ses jugements. Il était humain. Ceux dont je méprisais trop les pères pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. Oui, c'est ces gens-là qui sourient de moi. Ces gamins. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Ben, c'est bien ce qui arrive aujourd'hui. Il y a tant de jeunes qui n'atteignent pas, qui devraient aller plus loin. Ils n'atteignent pas la vieillesse. Le Québec, comme vous le savez, est le pays du monde entier où il y a le plus de suicides de jeunes avant 20 ans. Et aussi d'enfants qui n'ont pas 12 ans. C'est notre province qui tient la palme dans le monde entier. Et pourquoi? Pas capable d'atteindre la vieillesse. Verset 3. Desséché par la privation et la faim, il fuit dans les lieux arides, depuis longtemps dévastés et ravagés. Ils arrachent les herbes sauvages près des buissons. Ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après un voleur pour qu'ils demeurent dans d'affreux ravins, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils vont braire au milieu des buissons. Ils s'entassent sous les mauvaises herbes, être vils et innommables, ils sont repoussés du pays. Voilà la condition de ceux qui se moquent de lui. Donc il est encore pire que lui. Verset 9. Et maintenant, voyez, ça revient toujours. Et maintenant, et maintenant, et maintenant. C'est ça qui fait les divisions. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons.
Je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi. Ils s'éloignent de moi. Ils ne se retiennent pas de me cracher au visage. Puisque Dieu a mis à découvert ce qui me restait et qu'il m'a humilié, il rejette tout frein devant moi. Si Dieu l'a humilié, l'a rejeté, bien eux aussi le rejettent. Verset 12. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se frayent contre moi des chemins de malheur. Ils coupent mon propre sentier et travaillent à ma perte. Ils arrivent comme par une large brèche. Ils se précipitent sous les décombres. L'épouvante s'est tournée contre moi. Ma noblesse est emportée comme par le vent. Mon salut a passé comme un nuage. Voilà les sentiments qu'a Job. Il nous parle là dans ces versets des insultes dont on l'accable. Verset 16. Et maintenant, il finit donc par une complainte. Mon âme s'épanche sur moi-même. Quelle différence quand vous voyez le Seigneur dans la prière sacerdotale. Son âme s'épanchait sur qui? Dans le sein du Père. Jésus épanchait son âme dans le sein du Père. Et c'est bouleversant. J'aime tellement le chapitre 17 de Jean, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, parce que là, ce ne sont pas des paroles que Jésus enseigne, mais on voit sa vie intime, sa vie intérieure, comment il passait ce moment de prière avec son Père, ce que c'était pour lui de prier. C'était s'entretenir avec le Père, c'était ouvrir son cœur au Père, épancher son âme dans le sein du Père. Mais lui, il épanchait son âme sur lui-même. Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce les os au-dedans de moi. Les douleurs qui me rongent ne se couchent pas. Et lui, quand il se couche, les douleurs ne se couchent pas. C'est-à-dire, elles sont continuelles. C'est tellement grave que mon vêtement se déforme. Comme quand je deviens bossu, si je n'accroche pas ma tête à une étoile. Mon vêtement aussi se déforme, je le sais. Il se colle à moi comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. J'ai perdu mon beau teint. Je t'appelle au secours et tu ne réponds pas. Je me tiens debout pour que tu fasses attention à moi. Il voudrait attirer l'attention sur lui. Alors il se tient debout. Puis Dieu ne vient pas. Alors il vide son cœur. Tu deviens cruel contre moi. Tu m'attaques avec la vigueur de ta main. Tu m'emportes sur le vent que tu me fais chevaucher. Tu me fais frémir au fond de moi-même. Puis une certitude maintenant qu'il a. Il a bien eu la certitude que son Rédempteur était vivant. Et voilà. Il en a une autre ici. Je le sais. Tu me mènes à la mort. Au lieu de rendez-vous de tous les vivants. Nous n'y échapperons pas si le Seigneur ne revient pas. Nous savons que notre lieu de rendez-vous, eh bien, c'est la mort dans un certain sens. Le rendez-vous de tous les vivants. Personne n'échappe. Verset 24, mais celui qui va périr, n'étend-il pas les mains Il demande pitié, il demande grâce. Il espère encore. Celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours? N'avais-je pas des larmes pour celui dont les jours sont durs? Lui avait pleuré pour sympathiser avec d'autres. Mon âme n'était-elle pas triste à cause du pauvre? Car j'espérais le bonheur, et le malheur est venu. J'attendais la lumière, et l'obscurité est venue. Il y a une déception. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de souffrance m'ont affronté. Je marche noirci, mais non par le soleil. C'est pas du bronzage. Tandis que la bien-aimée du Cantique des Cantiques, elle disait, je suis noir parce que le soleil m'a regardé. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève dans l'assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals. Vous avez déjà eu l'occasion d'entendre des chacals? Dans la nuit? Oui, pas mal. Job, le frère des chacals, rendez-vous compte. Après nous avoir dit ce qu'il était autrefois, le compagnon des autruches. Ma peau devient sombre sur moi, mes os sont brûlants de fièvre, ma harpe ne sert plus qu'au chant de deuil. Avant, sa harpe animait les festins, et mon chalumeau, un autre instrument de musique, qu'à la voix de ceux qui pleurent. Et demain matin, nous entendrons un homme qui avait assisté, il devait y en avoir plusieurs qui ont assisté à ces discours, à ces échanges, à ces trois cycles. Puis tout à coup, un des auditeurs, qui était jeune encore, n'a pas pu se contenir. Après les avoir tous entendus, il s'est levé et il s'appelle Élie. Alors on verra ce que l'Esprit va nous dire par le moyen d'Élie qui va préparer l'intervention de Dieu lui-même. Quand Élie se tait, Job ne répond pas, mais qui est-ce qui continue? C'est Dieu lui-même. Alors, voilà, vous voyez maintenant, on arrive par étapes à la réponse de Dieu. Nous prions. Dieu notre Père, avant de nous séparer, pour la continuation de cette journée, nous voulons te demander que nous puissions nous familiariser vraiment avec cet ami Job, que nous puissions essayer de nous mettre dans sa peau, comprendre ses réactions, comprendre sa douleur, sa déception et aussi son espérance. Qu'il soit aussi devant nous un exemple. Cet exemple de patience dont nous parle Jacques, vous avez entendu parler de la patience de Job. Mais nous commençons à comprendre ce que nous dit Pierre, que bien souvent l'épreuve est nécessaire pour nous amener plus loin, sur un terrain où tu peux nous bénir. Parce qu'en aucun cas, tu ne peux glorifier la chair. Et si la chair est prête à se glorifier, tu ne peux pas intervenir. Bien, nous voulons te demander que nous puissions connaître la vraie humilité et nous humilier aussi sur les points où nous ne sommes pas vraiment en harmonie avec toi. Ne permets pas que le camp se continue sans qu'il y ait un changement dans tous nos cœurs pour que nous arrivions à une véritable harmonie. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen.